France Inter.
Allô la Terre, Elisa, bonjour de la Meuse. Suite à l'émission de ce jeudi 18 avril sur l'érosion côtière et la montée des eaux, quelle menace de montée du niveau de la mer pour la centrale nucléaire de Gravelines construite sur un polder exposé au risque de submersion et pour les deux nouveaux réacteurs EPR prévus à Gravelines? Merci, à bientôt, au revoir.
Bonjour, la Terre au carré, c'est Martine de Gironde. Je vous appelle concernant les renards. Bon, les renards sont chassés toute l'année, hein, hors des périodes de chasse. Alors pourquoi est-il si mal aimé, ce renard? En fait, on l'accuse d'être vecteur de maladies, mais on sait maintenant qu'il nous protège, par exemple, de la maladie de Lyme. Comme il consomme énormément de rongeurs, les rongeurs étant d'importants vecteurs de la borréliose de Lyme, et en fait, ils nous protègent. Par ailleurs, grâce à cette grande consommation de rongeurs, le renard commence quand même à être considéré comme un allié pour les agriculteurs. Unissons-nous pour défendre le renard, pour enfin le faire sortir de son statut de nuisible. Merci la Terre au carré, continuez vos émissions très intéressantes.
Bonjour, Suzanne de Lille-Dieu. Je suis une fidèle auditrice de France Inter et je m'interroge parce que vous êtes là cet après-midi en train de parler du retrait du trait de côte. Et je suis surprise qu'on ne mentionne pas ce qui se passe à Lille-Dieu depuis 5 ans, puisqu'il y a un super projet qui s'appelle Odyssée-Dieu et qui est maintenant poursuivi par Odyssée-Île et qui travaille précisément sur le retrait du trait de côte à Lille-Dieu. Et c'est un projet de science participative qui me paraît tout à fait bien menée. Voilà, merci, au revoir.
Et oui, merci Suzanne, on ne peut pas parler de toutes les bonnes initiatives, mais heureusement vous êtes là pour compléter. Merci pour vos messages, amis de la Terre au carré. Continuez à nous appeler au 01 56 40 45 45. Au sommaire du club de la Terre au carré, un livre comme une bouffée d'air frais qui nous emmène des chemins forestiers de Sologne aux sentiers côtiers de Bretagne pour cheminer dans les souvenirs de jeunesse et les réflexions d'une animatrice de radio et de télévision dont le nom vous dira sûrement quelque chose. Bonjour Noël Bréham.
Bonjour Daniel Fievé.
Vous venez de publier Tête en l'air et Pieds sur terre aux éditions Salamandre. Vous y racontez avec toute la poésie, la fantaisie et l'humour que l'on vous connaît, votre plaisir de la marche, votre rapport à la nature, et puis vous vous livrez aussi un peu. On vous retrouve dans un instant pour en parler. Dans ce club, nous plongerons également dans la longue et belle histoire des jardins avec vous, Hervé Brunon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, historien des jardins, du paysage et de l'écologie, et vous venez de publier Histoire des jardins aux éditions Que sais-je. Et puis nous nous intéresserons à une plante aux mille et une vertus, le bambou, avec vous, Jeanne Femme Tran. Bonjour.
Bonjour, Daniel Fevel.
Dans quelques jours paraîtra votre livre intitulé Révolution bambou aux éditions Équateur. Vous nous invitez à redécouvrir cette plante qui est à votre sens un trésor philosophique, économique et écologique. À vous lire, le bambou pourrait être une solution à bon nombre de nos problèmes. Vous allez nous expliquer pourquoi dans cette émission. Et amis auditeurs et auditrices, nous attendons dès à présent vos questions et vos réactions sur tous ces sujets sur la page de l'émission. Je ne serai pas surpris que quelques messages arrivent à votre attention, Noël Bréham. Juste avant 15h, nous retrouverons Le jour où d'Anaël Verzo. Aujourd'hui, sa rencontre avec Luc Richard. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Anaïs Reinhardt, préparée aujourd'hui par Roman Lévy et Joël Levert, avec à la technique Guillaume Ficheux.
La Terre au carré. Daniel Fievé sur France Inter.
On oublie notre corps. Dans la vie que nous menons, le corps devient presque une abstraction. Et d'ailleurs, aussitôt qu'il se manifeste, on fonce vite chez le docteur pour arranger les choses, parce que c'est pas normal qu'il se manifeste. Or, dans la marche, effectivement, il est extraordinairement présent. Mais il est présent en mal, quand il fait mal, mais il est aussi présent en bien, parce que à partir du moment où vous avez marché une heure et demie, quand vous commencez à avoir les muscles qui sont bien chauds, il y a un moment de bonheur absolu. Je veux dire, il y a un moment où votre corps fabrique des endorphines et vous planez.
On va planer avec vous, la voix de l'écrivain Bernard Olivier, grand adepte de la marche, comme vous, Noël Bréham. Vous êtes d'accord avec cette idée que la marche peut faire planer ?
Ah, mais complètement. Mais je suis archi d'accord avec lui, et même, c'est même pas la peine d'attendre ça. En fait, c'est presque immédiat. Alors, on arrive progressivement à planer. On commence pas à s'envoler tout de suite en laissant ses chaussures de marche. Il y a d'autres étapes avant de planer, mais qui sont intéressantes quand même. C'est pas qu'une drogue à la marche. C'est tout simplement un bien-être.
Alors nous sommes ravis de vous réentendre sur France Inter à l'occasion de la parution de votre livre Tête en l'air et pieds sur terre aux éditions La Salamandre. Dans ce livre, vous nous emmenez cheminer sur les sentiers de votre enfance, à commencer par les sentiers forestiers de la Sologne. Vous avez un grand attachement à cette région et à ces paysages. Pour quelle raison, Noël Bréham ?
Parce que je la connais. En fait, vous savez que c'est ça le racisme. C'est détester les gens qu'on ne connaît pas, ouais. En fait. Et ben, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aime ce qu'on connaît. Ouais. Donc j'ai eu la chance, enfant, d'aller en Sologne, et cette région est très jolie. Peut-être comme toutes les régions qu'on connaît, justement. Ouais. Et voilà, tout simplement, j'aime cette région parce que je la connais.
Ouais. Et puis quand vous y arriviez, c'est le symbole de la délivrance. Hein. Ouais. On sent, il y a ce plaisir. Vous le racontez très bien, vous avez l'art de raconter comme toujours. On est tout de suite dans un conte, même si c'est votre histoire à vous. Tout de suite, ça prend des allures de conte. Merci. On passe la Loire et vous dites que votre père salue la Loire comme un personnage. Bonjour, Madame la Loire.
Oui, bonsoir, Madame la Loire.
Et quand on arrive enfin dans cette maison, c'est la délivrance. On va pouvoir explorer le territoire.
C'est la campagne.
Ouais.
Mais t'es parisien, hein, ouais. En fait, au départ. Donc, c'était la campagne, c'était la nature, c'était la liberté, parce que moi, j'ai la chance de faire partie d'une génération où les enfants ont nous laissé faire, en tout cas chez nous, hein. D'abord, c'est une famille un peu brinzingue, et en plus, c'est une génération où les enfants, on faisait mais ce qu'on voulait. Ouais. On n'avait pas de lunettes, pas de casque, pas de protège-genoux, mais rien. Et c'était merveilleux.
Ouais, vous explorez l'hiver comme l'été, et puis vous dites aussi que des fois vous passez sur des territoires où on n'a pas vraiment l'autorisation de passer, mais c'est pas encore vraiment barricadé.
C'est un peu flou.
C'est un peu flou, alors on est discret, on marche discrètement, mais on explore un peu à tout va. Vous nous les décrivez, ces paysages de Sologne que vous décrivez très très bien dans votre livre.
Je souhaite ça à tous les enfants, en fait, d'avoir accès à la nature en toute liberté, même si on savait bien quelque part que c'était à moitié légal. Et puis je vous dis, en fait, chaque médaille a son revers. Nous, on avait des parents qui s'occupaient pas beaucoup de leurs enfants. D'abord, je pense qu'ils les avaient pas désirés, parce que là aussi, c'est une histoire générationnelle. Moi, je suis d'une génération où nos parents connaissaient pas la contraception. Donc, mon Dieu, les enfants, on les voulait ou on les voulait pas. De toute façon, on les avait. Hein. Donc, eux, je crois que mes parents s'en seraient volontiers passés. Donc, ils s'occupaient pas énormément de nous. Mais c'était formidable. Parce qu'on avait la liberté. Mais la liberté, c'est une chose merveilleuse. Et dans la nature, c'est merveilleux parce que ça permet de tout explorer. On nous a jamais dit faut faire attention au fossé, on peut tomber dedans. Faut faire attention à la pluie, ça mouille. Faut faire attention à ci, à ça, c'est glissant. Faut faire attention aux animaux. On nous a jamais dit de faire attention à rien. On nous disait rien, de toute façon. Et donc, on a abordé la nature la façon la plus formidable qui soit. Ouais. Et la Sologne est une jolie région.
Oui.
C'est une région.
Décrivez-nous ces paysages de Sologne.
C'est de l'eau.
C'est de l'eau, oui.
C'est de l'eau.
Tout s'entremêle de façon sublime, hein. Ce sont vos mots. Vous êtes assez poétique, hein, quand vous parlez de cette région anciennement marécageuse, l'eau qui pénètre dans la terre, et puis la terre qui avance dans l'eau, hein, ça s'entremêle.
C'est flou, comment je pourrais dire, un peu Georges Sand, qui est voisine, hein. C'est pas la Sologne, Georges Sand, mais c'est quand même un terrain de brume, d'eau qui se mélange au bois, de bois qui se mélange à l'eau, avec les animaux, avec absolument rien ni personne, pas un fil électrique, pas une maison, pas une clôture à l'époque, maintenant c'est peut-être un peu différent, mais c'est vraiment la nature pure, avec le jour qui se lève, la lumière qui change, toutes les régions ont ça.
Hein. Ouais.
Encore une fois, moi je vous parle de celle-là parce que
c'est celle que vous connaissez, ouais. Mais vous ne parlez pas que de celle-là, vous parlez aussi de Belle-Île-en-Mer, et là il y a aussi des très belles pages. Alors c'est vraiment aussi l'occasion de vous confier, hein. Vous commenciez déjà un peu à le faire d'ailleurs dans la discussion, en disant bah, nos parents ne nous avaient pas tellement forcément désiré, donc on était un peu livré à nous-mêmes. On sent hein, qu'il y a quand même quelques petites réflexions comme ça sur la famille, et notamment avec Belle-Île en mer, où, je vais vous laisser raconter, mais le point de départ, votre père dit « on va acheter un terrain » à Belle-Île-en-Mer. Et vous avez une réflexion amusante d'ailleurs sur les priorités au niveau de la gestion de l'argent dans cette famille.
On n'avait pas un sou. Non, on n'avait vraiment pas un sou. On était habillés de guenilles. Ouais. On n'avait même parfois pas à manger. Les parents ouais. partaient je ne sais où, en vacances quelquefois. On se retrouvait tout seul. On se demandait donc vraiment ce qu'on allait manger. Donc vraiment, on n'avait pas un sou. Et avec ça, un jour, ils nous disent on va acheter un terrain à Belle-Île-en-Mer et construire une maison. Mais c'était incroyable, mais pourtant vrai.
Oui.
Et chose doublement incroyable, c'est que nous, les enfants qui n'avions pas non plus le droit à la parole, on n'était pas des martyrs hein, du tout, mais ça aussi, c'est générationnel. Ouais. Hein.
Vous n'avez qu'un seul droit, c'est celui de vous taire.
Absolument.
C'est ce que vous disait votre père.
Qu'un seul droit, c'est celui de te taire. Et là, tout d'un coup, on allait choisir ensemble ce terrain à Belle-Île-en-Mer. Et nous voilà partis, toute la famille, arrivés à Belle-Île, bateau, comme son nom l'indique, Belle-Île est une île, et hôtel. Ça aussi, c'était surréaliste, on n'avait jamais dormi à l'hôtel. Et location de vélo pour visiter les terrains à louer. Et finalement, c'est souvent comme ça, je l'ai compris après dans la vie, on voulait un terrain comme ci, comme ça, et on est passé devant une vieille baraque sur laquelle on voit un vieux panneau à vendre, un peu comme dans les dessins d'enfants, panneau complètement déglingue, baraque complètement déglingue. On arrive chez le notaire en disant « on pourrait visiter cette maison ». Notaire se dit, mais ils sont complètement...
Oui, parce qu'elle était vendue trop cher, apparemment. Personne n'en voulait.
Personne n'en voulait depuis tout le temps. Les voisins disent, n'achetez surtout pas cette maison. Et tout le monde a dit, mais elle nous plaît. Ouais. Et voilà, et c'est cette vieille baraque qui finalement, à l'unanimité...
Ouais, toute la famille s'est mise d'accord. C'est le coup de foudre de la famille. Et du coup, après, encore des marches. Alors, sur la route de Belle-Île-en-Mer, vous dites que là aussi, vous avez apprécié, vous avez des souvenirs marquants de marche sur cette route. C'est même pas un sentier, hein, c'est une route. C'est pas là où on préfère marcher.
C'est intéressant, Daniel Fievier, que vous parliez de ça, de cette route. Parce que Belle-Île-en-Mer, pour les gens qui connaissent, même ceux qui connaissent pas, il y a des photos très spectaculaires de tempêtes, de pointe des poulains. Parce que Belle-Île, c'est au large et c'est somptueux. Mais ce qu'on connaît et moins, ce sont tous ces hameaux, tous ces villages, toutes ces routes, tous ces vallons. Alors d'abord, c'est pas plat, hein. C'est pas l'île de Ré, si vous voulez.
Ouais.
Ça monte et ça descend tout le temps. Et l'intérieur de Belle-Île, peut-être ça ressemble aussi à la Sologne, est très beau, très mystérieux, avec de la verdure, des champs qui à l'époque n'étaient pas ou peu clôturés, avec des vaches qui étaient à leur piquet. Elles étaient attachées à leur piquet, puis quand elles avaient mangé tout l'herbe autour de leur piquet, on les changeait de place. Et Belle-Île, c'est magnifique, et c'est la campagne, hein. Il y a un Belle-Île rural qui vaut le coup. Ouais.
Alors, on retrouve dans ce livre le côté humoristique, parfois un peu farfelu, déjanté, que vous pouvez
avoir. C'est barré, dites-le, je le sais, on m'a déjà dit.
Mais justement, c'est quelque chose que je voulais... Parce qu'on l'avait aussi, cette façon un peu de toujours raconter les choses avec un regard un peu décalé quand on écoutait les petits bateaux ou même dans les questions que vous pouviez poser. Et quand on vous connaît hors antenne, vous êtes comme ça. C'est quelque chose que vous cultivez ou vous êtes profondément comme ça et vous faites avec, Noël Bréard.
Je suis profondément comme ça. Je fais avec ou je fais contre. J'essaye quand même de me soigner, d'être plus organisée, plus raisonnable, plus logique, plus sage. Mais on avance à tout âge, hein.
Ouais.
Donc je pense que je progresse, mais enfin je suis quand même loin de la ligne d'arrivée.
J'aime bien cette idée de « on avance à tout âge » parce que là encore on retrouve un peu le chemin, la route, on marche. Et c'est ce qui ressort dans votre livre. Si vous êtes tant attaché que ça à la marche, c'est parce que, et surtout au début, vous vous cherchiez beaucoup au début, vous dites « je ne savais pas où était ma place, je ne savais pas ce que j'allais devenir, je ne savais pas ce que je savais faire, mais au moins je savais marcher, alors ça je le faisais avec un bonheur inouï. » Ça vous a fait énormément de bien.
Et je le conseille à tous ceux qui ne savent pas qui ils sont, où ils vont, enfin, c'est peut-être le propre de l'être humain, en tout cas des adolescents, en tout cas des jeunes. C'est quand même difficile. Moi, je vois ce parcours sup maintenant. Je me dis, mais c'est, pardon, pour les organisateurs de cette monstruosité. Sans jugement, bien entendu.
Oui, ben là, c'est fait quand même.
Mais mon Dieu, mais que c'est compliqué de devoir cocher toutes les cases, de toutes les colonnes, si jeune dans un monde qui bouge autant. Eh ben, marcher, c'est quelque chose qu'on sait tous faire, qui est facile, qui coûte pas cher et qui fait du bien.
Encore aujourd'hui, vous savez expliquer pourquoi la marche vous fait tant de bien. Vous dites plein de choses par petites touches dans ce livre sur la marche, sur le silence de la marche, sur les distances que l'on parcourt, qui sont subjectives selon le marcheur, selon le jour sur lequel on marche. On sent que tout ça est très intérieur.
Mais oui, parce que finalement, marcher, c'est pas prendre sa voiture. Sa voiture, c'est la même à peu près, si on a un peu eu de pépins, c'est la même tous les jours qui vous attend à sa place de stationnement ou dans son garage. Nous, c'est nous qui marchons. Donc, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où au contraire on est excité, c'est trop lent. Il y a des jours où on a envie de s'arrêter, ça demande trop d'efforts. Marcher est complètement lié à qui on est. On est tout dans la marche. On est le moteur, on est les roues.
Puis aussi le lien à la nature. On sent que depuis toujours, un émerveillement, une curiosité sur le monde qui vous entoure, avec des souvenirs inoubliables comme du plancton phosphorescent. On vous réveille en pleine nuit et vous en gardez très longtemps après un souvenir inoubliable.
C'est fou, c'était sur l'île Drennec, qui est une île des Glénans. Les Glénans sont ça s'appelle comment, il y a plusieurs îles, un archipel.
Oui, du coup, oui.
Et donc voilà, il y en a plusieurs, et là, en pleine nuit, mais c'est comme une aurore boréale, ce sont des espèces de traces vertes. On n'est pas tellement habitué au vert, nous, on n'habite pas en Alaska quand même. Mais sur le sol, et quand on marche, en plus, ça en fait ressortir encore plein. C'était un phénomène époustouflant, cette luminosité vert, cette espèce de feu d'artifice qui sort du sable mouillé. Je le souhaite à tout le monde de voir ça une fois dans sa vie.
Ouais. Ce lien à la nature, vous dites, la nature nous renvoie à notre vraie nature. Il y a un peu une parole de sage aussi. Hein. Je parlais de votre humour, de votre fantaisie. Il y a aussi une certaine sagesse qui se dégage la réussite sociale est un médicament, un baume qui calme mais qui ne guérit pas nos blessures. Voilà ce que vous écrivez au détour d'une phrase.
Écoutez, Daniel Fivier, vous êtes bien placé pour savoir que la réussite sociale, la reconnaissance, la célébrité, c'est du faux amour. C'est ça la grande histoire de la vie, hein. C'est quand même l'amour. La célébrité, c'est du faux amour. Les gens vous disent qu'ils vous aiment, ça fait toujours plaisir à entendre, mais en fait, ils vous connaissent pas et vous ont jamais vu. C'est le contraire de quand quelqu'un vous traite de connard sur la route parce que vous avez fait quelque chose qui déplaît, vous êtes allé trop vite ou pas assez vite, ou je sais pas quoi, vous n'avez pas démarré assez rapidement au feu rouge, vous vous faites insulter, mais c'est pas une vraie insulte, il vous connaît pas. C'est quelque chose qui l'a agacé parce que vous n'avez pas démarré assez vite. Donc l'amour qui est lié à la célébrité, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'on reçoit, sauf que c'est positif, mais qui n'est absolument pas plus réel que l'insulte qu'on reçoit par un automobiliste. On vous dit qu'on vous aime, c'est agréable. Ce qui est agréable et qui est réel, c'est la reconnaissance de son travail. Ça, c'est bon. Et c'est juste. Mais ce qui n'est pas juste, c'est cette espèce d'amour qu'on reçoit de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc ça fait du bien.
Oui.
Mais c'est quand même quelque chose de faux.
Est-ce que je vous lis quand même quelques messages qu'on reçoit à votre intention, Noël? Zoé qui dit « Vous nous manquez tellement, on a 35 ans et on a toujours écouté Les Petits Bateaux, merci pour tout ». Jean-Pierre qui dit « Dans Les Petits Bateaux, vous aviez une écoute à hauteur d'enfant parce que vous faisiez appel à la vôtre d'enfance et à notre enfance encore présente. Vos commentaires, parfois engagés, parfois mutins ou admiratifs, nous rendaient les questions des enfants plus belles et complexes que les réponses. Votre poésie nous manque », voilà ce que dit Jean-Pierre. Coquelicot nous dit un très très grand bonjour à Noël Bréham, qui nous manque beaucoup. J'achèterai son livre et j'espère qu'elle me le dédicacera si elle passe en Bretagne. Voilà, c'est Coquelicot qui nous dit ça. Il y en a d'autres, hein. Je vous les lirai ou je vous les donnerai hors antenne. Jeanne Van Tram, vous êtes aussi une adepte de la marche, ça vous parle ce que
Absolument,
dit Joël?
Absolument, complètement, une adepte de la marche. Alors je connais moins bien la Sologne, mais tout ce que vous avez dit sur la Sologne me rappelle le Limousin.
Ah oui, mais ça
n'est pas très loin.
C'est beau.
Et où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, puisqu'on avait une maison de vacances là-bas. Et c'est pareil, c'est très vallonné, il y a beaucoup d'eau.
C'est vert.
Il y a la Vienne, c'est très très vert. C'est une des plus belles régions de France, mais il ne faut pas le dire, parce qu'il n'y a encore personne.
C'est ça, hein, les coins les plus merveilleux, on hésite à les partager. Cela dit, Noël Bréham, pour finir, est-ce que dans toutes ces marches que vous avez pu faire en Bretagne, en Sologne et ailleurs, parce qu'il y a d'autres endroits qui sont évoqués dans le livre, vous auriez un ou deux conseils de randonnée pour ce week-end ou pour l'été prochain à nous conseiller? conseiller, d'endroits méconnus ou pas, où il fait bon d'aller marcher?
Alors, un de mes chantiers personnels en ce moment, c'est d'arrêter de donner des conseils. C'est un chantier qui a été insufflé par mes enfants qui sont complètement excédés.
D'accord.
Donc, non, je n'ai pas de conseils à donner. Vous voyez, Jeanne Femme-Train vient de parler du Limousin. Et elle a raison, en fait. La région la plus belle, c'est la sienne. C'est celle où on va. Non, le seul conseil que je pourrais donner, c'est... par moment, marcher, c'est un petit peu comme lire la musique. Il y a des moments où ça peut paraître un peu fastidieux, un peu un effort. Et ça vaut le coup de passer cette petite barrière de vagues, pour en revenir à la Bretagne. Parfois, quand on décolle de la plage, c'est très difficile de passer les vagues parce que ça remue. Et puis après, quand on a passé cette petite barre, la mer est facile à naviguer. Et ben la marche, c'est pareil. Il faut passer ce petit moment. Il faut le dire. Il y a un petit moment désagréable. On veut plus jamais dire rien de négatif maintenant. Oui, il y a un petit moment où on n'a pas envie. Et ben ça vaut le coup de passer cette petite barre un peu dure parce qu'après on vogue avec bonheur et facilité.
Votre livre, Noël Bréham, s'intitule Tête en l'air et pieds sur terre. Il vient de paraître aux éditions Salamandre. Vous y évoquez aussi le plaisir que vous avez eu à co-animer l'émission Silence ça pousse sur France 5. On va avoir l'occasion d'y revenir dans la suite de cette émission puisque le prochain sujet, c'est l'histoire des jardins avec l'historien Hervé Brunon.
Où partent l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues, m'ont s'accroché à l'arbre, ma vie m'a pris. Je suis au fait, presque à ton bras, deux pas pour le bal, trois sur le côté. Passer lentement, sous le ciel qui change ses habits, sans faire de beau. Puis le reste, en nous ça tourne à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui tôt matin me mord le bras, les yeux, les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était
suivre jusqu'au ciel
et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve.
De beau dimanche, c'était Marion Rampal sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
J'ouvris la première porte et j'entrai dans un jardin fruitier auquel je crois que dans l'univers, il n'y en a point qui soit comparable. La symétrie, la propreté, la disposition admirable des arbres, l'abondance et la diversité des fruits de mille espèces inconnues, leur fraîcheur, leur beauté, tout ravissait ma vue. Je ne dois pas négliger de vous faire remarquer que ce jardin délicieux était arrosé d'une manière fort singulière. Des rigoles creusées avec art et proportion portaient de l'eau abondamment à la racine des arbres qui en avaient besoin pour pousser leurs premières feuilles et leurs fleurs. Je ne pouvais me lasser d'examiner et d'admirer un si beau lieu. J'en sortis l'esprit rempli de ces merveilles.
Extrait des contes des Mille et Une Nuits avec une description fabuleuse d'un jardin lu par Camille Jusot. Hervé Brunon, vous êtes historien, chercheur au CNRS et vous venez de publier Histoire des jardins aux éditions Que sais-je. Cette description montre bien que notre fascination, notre admiration pour les jardins et puis le soin que nous mettons à les cultiver, à les organiser, ne date pas d'hier.
Non, en effet, c'est une très longue histoire qui remonte quasiment au néolithique.
Ouais. Un précédent Que sais-je avait été écrit sur les jardins il y a 70 ans. Il s'intitulait L'art des jardins. C'était pas tout à fait comme vous, Histoire des jardins. C'était L'art des jardins. Il avait été écrit par un latiniste, Pierre Grimal, qui avait consacré sa soutenance de thèse au jardin de l'Antiquité. Et comment avait été jugé à son époque cette thèse et ce sujet de thèse sur les jardins de l'Antiquité?
Alors c'est assez étrange, on nous l'avait reproché d'avoir choisi un sujet frivole. On avait considéré que c'était pas légitime, pertinent pour une thèse de la Sorbonne de s'intéresser au jardin, alors qu'évidemment on a beaucoup changé d'opinion depuis.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en étudiant les jardins, qu'est-ce qu'on peut faire dire? Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, de notre histoire, d'une civilisation de regarder ces jardins?
Mais les jardins sont en fait une fenêtre sur chaque culture, sur chaque société. Ils permettent de comprendre comment les femmes et les hommes considèrent leur environnement, le métamorphosent en fonction de quels idéaux. Donc c'est une clé de lecture des civilisations.
Ouais. Quand sont apparus les premiers jardins? Est-ce qu'on a une idée de ça?
Alors c'est un peu mystérieux. La plus ancienne représentation figurée qu'on connaisse des jardins date de à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est un vase cultuel qui vient d'Uruk, donc de la civilisation sumérienne.
Ouais.
Mais on peut supposer qu'il y avait des jardins auparavant dont on ne sait pratiquement rien. Ils ne laissent pas de traces archéologiques, donc il y a un grand débat pour savoir à quelle époque où est-ce qu'ils apparaissent.
On se situerait au niveau de la Mésopotamie pour situer un lieu, pour tenter une hypothèse.
Mésopotamie, voilà, au cours des millénaires qui ont précédé le développement de la civilisation, de l'écriture et de l'apparition de la littérature, par exemple, avec l'épopée de Gilgamesh, apparaît ce jardin.
On peut imaginer que ces cultures sont avant tout faites pour que l'on se nourrisse, ce sont des plantes vivrières que l'on plante, ou le jardin d'ornement existe depuis toujours, on a tout de suite voulu faire beau.
Alors aussi, c'est une question qui reste un peu qui se fond dans les mystères, parce que on sait par exemple que les fleurs ont été utilisées à des fins funéraires assez tôt, peut-être même dès Néandertal, et donc il est possible qu'on ait pratiqué des cultures pour pouvoir disposer de plantes qui avaient un usage symbolique et pas simplement nourricier.
Mmh. Et on peut aussi faire une sorte de hiérarchie ou en tout cas d'organisation chronologique entre le jardin et l'agriculture. Autrement dit, qu'est-ce qui a précédé l'un ou l'autre? On a commencé par des champs, puis on s'est dit on va mettre un petit jardin autour de la maison, ou c'est l'inverse?
Les deux hypothèses coexistent, en fait.
Oui.
C'est ça qui est très intéressant. L'interprétation la plus courante, c'est que l'agriculture a donné lieu au jardin, qu'elle a d'abord été inventée, mais un certain nombre d'auteurs et de travaux récents, d'ailleurs, d'archéologues, laissent présumer que c'est plutôt le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on a d'abord commencé à jardiner sur des petites surfaces, avec des outils à main, sans avoir de labour, et qu'ensuite, une fois que ces techniques ont été suffisamment mises au point, on est passé à l'étape suivante. Le jardin serait plus ancien que le champ.
Oui, donc en fait, on est vraiment aux prémices de l'agriculture, selon cette hypothèse-là. Ça devient assez fascinant de se dire ça. Vous considérez aujourd'hui que faire un jardin, on a élevé ça au stade d'art, c'est un art, ce sont des formes d'art, les jardins?
Alors c'est une un débat aussi qui s'est produit, par exemple, à partir du XVIIIe siècle. On a considéré que le jardin était un art, avait la légitimité d'un art, de ce qu'on appelait les arts libéraux à l'époque. Et donc, on a commencé à ériger le jardin en forme d'art. Et puis, il y a un peu une sorte de mouvement inverse aujourd'hui, parce que on considère que c'est pas simplement un art, c'est pas simplement, ça relève pas uniquement du champ esthétique, mais c'est aussi une pratique sociale, évidemment, qui est très importante dans les villes. Si on considère, par exemple, le phénomène des jardins partagés. Ouais. Donc, il n'y a pas uniquement la recherche de la beauté, la recherche d'un idéal esthétique. Il y a aussi toute une série de considérations pratiques très importantes.
Oui. C'est ce qui est passionnant en vous lisant Histoire des jardins aux éditions Que sais-je, c'est qu'on se rend très vite compte que, alors moi le peu de choses que je savais en la matière, les jardins à l'anglaise, les jardins à la française, cette façon un peu simple de découper les choses n'est pas très pertinente et ne reflète pas vraiment la diversité et l'ampleur de l'histoire des jardins.
Oui, parce qu'il y a énormément de choses qui échappent à cette dichotomie très très caricaturale. Il faudrait parler des jardins hollandais, des jardins allemands, des jardins italiens, les jardins. Ces deux grands modèles, à la française et à l'anglaise, ils ont été construits en tant que modèles d'idéaux patriotiques au cours du 18e et surtout du 19e et du début du 20e siècle. Mm-hmm. Donc il faut les contextualiser, il faut les déconstruire historiquement pour pouvoir comprendre leurs limites.
Mm-hmm. Et puis, il y a aussi ces jardins qui, très tôt, sont le reflet de la puissance des souverains. On n'a pas attendu Versailles pour ça.
Non, bien sûr, bien sûr. Si on pense, par exemple, à la villa d'Adrien, le grand empereur dépeint par Marguerite Yourcenar, bien sûr, sa villa qu'il avait aménagée aux alentours de Rome, au sud de Rome, était une sorte de catalogue des merveilles du monde.
Mmh. Avec nous, Noël Bréham, qui est resté et qui a fait pendant de longues années cette émission Silence ça pousse, où on vous voyait jardiner.
Ouais.
Et c'est un vrai plaisir, vous n'êtes pas forcé à faire cette émission, vous avez une passion pour les jardins.
J'ai appris beaucoup de choses. Je voulais dire une chose à laquelle j'ai pensé quand je vous entendais parler avec Hervé Brunon sur les jardins et l'agriculture, c'est que j'ai appris assez récemment, entre les Gaulois et les Romains, les Gaulois qu'on prend pour des bourrins et les Romains pour des raffinés, c'est que ce sont les Gaulois qui ont inventé la charrue. Et Hervé Brunon le sait certainement mieux que moi. Et les Romains étaient très clients de cette charrue gauloise et qu'ils achetaient à prix d'or et donc ils commerçaient. Je trouve qu'on peut quand même s'enorgueillir de sans vouloir trop se la péter, on peut s'enorgueillir de ça parce qu'on passe pour des gros lourds nous les Gaulois et donc quand même on a inventé des trucs.
Il y avait deux trois trucs qu'on a refilés aux Romains. Voilà. Hervé Brunon, vous confirmez les...
Oui, à peu près. Oui.
Ah, j'aime bien le à peu près. Pour rester correct.
J'ai peut-être fait une fiche un peu caricaturale.
Mais on sait quelque chose, justement, de ce qu'il y avait dans les jardins. Est-ce que les Gaulois avaient leur jardin ?
Alors, les Gaulois, c'est pas très clair. On n'a pas beaucoup de sources. Les Romains, évidemment, on a beaucoup de sources, beaucoup de choses, notamment par Pompéi. Mmh. On a les fouilles ont été, sont anciennes, mais on a, à partir des années 1980, à peu près, mis au point des nouvelles techniques, ce qu'on appelle l'archéobotanique. Donc, on sait étudier les pollens, par exemple, qui donnent des indications sur les types de plantes, les espèces qui étaient cultivées dans tel ou tel espace.
Jeanne van Tramme, vous, spécialiste des bambous, en tout cas, votre bouquin s'intitule « Révolution bambou ». Il y a au moins, on pense tout de suite en matière de jardin et de bambou, on pense au moins à la bambouserie d'Anduze.
D'Anduze, exactement, en France, mais aussi à tous les jardins, enfin l'art des jardins asiatiques, des jardins chinois, l'art des jardins japonais. Je ne sais pas si monsieur en parle dans le livre.
Il en parle, je confirme Hervé
c'est
Brunon.
C'est des traditions assez fabuleuses aussi, mais oui, la bambouserie d'Anduze qui se situe donc dans le sud de la France, est un jardin absolument sublime où se côtoient à la fois des bambous mais aussi plein d'autres plantes comme des séquoias ou des palmes et d'autres plantes exotiques.
Hervé Brunon, à l'invitation de notre invitée Jeanne van Tramme, parlez-nous un peu des jardins d'Asie.
Ah, les jardins d'Asie sont des mondes en soi, ce sont des microcosmes, ils correspondent à une vision du monde qui est un petit peu différent de la nôtre, évidemment, dans laquelle ce qui compte, c'est l'équilibre entre des forces antagonistes, le yin et le yang, par exemple, ce qui va se traduire par des pôles que sont la montagne et l'eau. Et très tôt, en Chine, puis plus tard au Japon, les jardins ont été des transcriptions de cette vision du monde, qui correspond à ce qu'on appelle la peinture de paysage, en chinois, shan shui, shan la montagne, shui l'eau.
Ah bah voilà, hein, on vous avait prévenu.
Vous allez vous dialoguer avec mon livre, monsieur.
oui, ça dialogue bien. Un grand merci à vous, Hervé Bruno.
Merci à vous.
Pour en savoir plus, je rappelle le titre de votre Que sais-je, Histoire des jardins, qui vient tout juste de paraître. Un grand merci à vous, et on se retrouve dans un instant pour aller se promener dans les bambouseraies et parler bambou avec Jeanne Femme Tran. C'était Blik Bassi qui chantait Mbondi sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Daniel Fievé sur France Inter.
Le bambou est un miracle, c'est un don de Dieu. Le bambou est léger, facile à manœuvrer. Les échafaudages métalliques n'ont pas la même flexibilité que les échafaudages en bambou. C'est un immeuble de 60 étages. L'utilisation du bambou pour les échafaudages extérieurs donne un sentiment de sécurité aux ouvriers. Pendant la saison des typhons, il arrive parfois qu'il y ait des vents très violents. C'est la flexibilité de ce matériau qui permet à l'échafaudage de résister aux tempêtes.
Extrait d'un documentaire diffusé sur National Geographic pour parler donc du bambou avec vous, Jeanne Femme Tran. Votre livre « Révolution bambou » va paraître aux éditions de l'Équateur. Ce sera dans quelques jours, le 24 avril prochain. On est en avant-première, hein, vous faites l'exclusivité pour parler de votre livre. On y découvre les mille et une vertus de cette plante, on vient d'en avoir un aperçu à l'instant avec ses échafaudages sur une tour de 60 mètres et c'est d'une solidité, ça peut être plus solide que l'acier, que le bois, le bambou.
Absolument, c'est un matériau et une plante, ouais. C'est ça qui est aussi très intéressant comme le bois mais avec encore plus d'utilisation que la plupart des bois, qui est fascinante pour l'association du coup de la fermeté de la solidité et de la souplesse,
ouais.
Ce que n'ont pas les autres bois, en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est à la fois une qualité technique, mais c'est aussi une qualité morale.
Et oui, alors évidemment, parce que...
et philosophique.
Vous l'abordez sous tous les angles, hein, à la fois aussi bien du point de vue de la nutrition, que de la philosophie, que de la manufacture, que de la musique.
Oui.
Voilà, c'est vraiment le bambou par tous les bouts, si j'ose dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette grande enquête sur le bambou ?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que je ne suis pas une spécialiste absolue du bambou au départ. Que les premiers bambous que j'ai rencontrés, c'était dans le Limousin, figurez-vous.
Ah oui. Tiens.
Puisque dans la maison de campagne que nous avons depuis 5 générations, il y avait des bambous depuis plusieurs générations qui ont probablement été plantés là au 19e siècle, puisque c'est la date d'arrivée des bambous en Europe. Il n'y avait pas de bambou avant le 19e siècle en Europe. Et je les ai retrouvés quand je suis partie vivre en Asie, précisément en Thaïlande, où je vis depuis 3 ans. Et ça a été du coup une seconde rencontre beaucoup plus impressionnante, puisqu'en Asie, ce ne sont pas des petits bambous qu'on a au fond du jardin. Ce sont des bambous absolument géants, avec un diamètre qui n'a rien à voir avec la plupart des bambous qu'on trouve ici.
Parce qu'il n'y a pas qu'une seule espèce de bambou, évidemment.
Il y en a 1600, au moins.
1600 bambous, et ceux qu'on connaît ou qu'on utilise, c'est une dizaine d'espèces.
Une dizaine d'espèces, voilà, qu'on sait pratiquer, qu'on sait utilisé, notamment en construction et en design, et pour la fabrication d'objets. Mais donc, il y avait cette, au départ, je dirais, un coup de cœur esthétique, un vrai amour pour la beauté de cette plante si souple, si fine, comparée aux énormes chênes ou aux sapins qu'il y a dans la maison du Limousin, enfin dans le jardin du Limousin. C'est vrai que le bambou me paraissait d'une extrême finesse, d'une extrême délicatesse. Il y avait quelque chose d'un petit peu surnaturel dans cette plante.
Ouais.
Et puis après, en vivant en Asie, justement, j'ai vécu aussi en Chine il y a quelques années, je me suis aperçue de ce hiatus assez étonnant qui fait que c'est la civilisation du bambou. C'est un terme qui existe, qui est circonscrite à l'Asie, allant de l'Inde au Japon jusqu'en Indonésie. Et qui, aujourd'hui, a l'air d'avoir complètement disparu. C'est-à-dire que cette plante, cette herbe, puisque ça n'est pas un arbre,
une herbe. Alors, une herbe géante, qui peut atteindre des proportions et une solidité pas croyable, mais c'est une herbe.
Mais cette herbe pousse partout et aujourd'hui, on ne l'utilise plus.
On l'utilise moins.
L'utilise beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire que depuis 20-30 ans, ça a été complètement remplacé. Tous les paniers en bambou, tous les récipients, enfin, tout était en bambou. Les constructions, les petites maisons dans les campagnes, tout ça, a été remplacé par le béton, l'acier et le plastique. Que les Européens ont gentiment apporté en Asie.
Donc on a un matériau, et on s'en rend compte, on va d'ailleurs le détailler un petit peu, mais avec mille et une vertus, et on l'a remplacé par des choses...
polluantes, extrêmement polluantes, quand on sait, vous avez fait une émission il y a quelques jours sur le béton, et on sait le taux d'émission de gaz à effet de serre du béton, le taux d'émission de gaz à effet de serre de l'acier et du plastique, n'en parlons pas, c'est une catastrophe interplanétaire. Le bambou, lui, est absolument zéro déchet, ne pollue absolument pas, si toutefois, le seul bémol, évidemment, est dans le transport.
Oui, ça dépend, évidemment. Si on le fait parcourir la moitié de la planète
ça peut être éventuellement l'écueil. Mais donc, pour revenir sur la décision et la prise de décision de ce livre, il y avait cette étonnante différence entre l'Asie qui aujourd'hui a l'air de mépriser le bambou puisque c'est considéré comme le bois du pauvre et l'Europe qui en revanche commence à découvrir le bambou, trouve que c'est la plante la plus écologique du monde et trouve qu'en plus ça fait un peu zen, écolo, bobo.
Oui, c'est ça, il y a un côté un peu snob.
Tout le monde veut sa brosse à dents en bambou.
C'est ça, il y a un côté un peu snob et chic
chez nous.
Chez nous, et c'est devenu le matériau du pauvre en
là-bas,
Asie.
Exactement. Et donc j'ai cherché, c'était une question assez fabuleuse pour en faire un livre et aller à la recherche de tous les acteurs, les pratiquants, je dis, du bambou dans le monde et les interviewer pour savoir ce que pense un architecte du bambou en Indonésie ou un facteur de flûte en bambou au fin fond de l'Ardèche.
C'est un matériau, c'est vrai, assez extraordinaire pour préserver l'environnement. Ça stocke d'immenses quantités de carbone.
De carbone, absolument. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. C'est la plante qui stocke le plus de carbone au monde. On pourrait expliquer pourquoi.
Allez-y, expliquez.
Alors, il faut qu'il y ait 3 éléments réunis pour cela. Il faut non seulement savoir que je disais tout à l'heure que sa vitesse de croissance est absolument phénoménale. Donc il y a un taux de renouvellement extraordinaire. Quand on dit que le bambou est envahissant en France, le contrepoint de ça, c'est que quand même, on peut le cultiver de façon et le récolter tous les 4 ans à grande vitesse.
Ça peut pousser à 1 mètre par jour. Enfin,
c'est vraiment une espèce très spéciale.
Je prends la plus extrême. Enfin, ça donne quand même une idée des capacités.
Ça donne une idée. Et moi-même, en Thaïlande où je vis, on voit les bambous du jour au lendemain pousser d'une façon exceptionnelle. Et si vous allez à Anduz, ils vous diront la même chose. Alors, si on reste devant et qu'on le regarde, on ne le voit pas pousser.
On ne le voit pas pousser, mais presque.
Si on le mesure le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc., on peut vraiment voir des différences.
Restaure les terres les plus dégradées, stocke l'eau dans le sol, purifie le sol.
Absolument.
Selon les espèces, il s'adapte à tous les milieux. On peut trouver des bambous dans des territoires enneigés. Ça a quand même quelques défauts. Est-ce que parmi vos émissions, Noël Bréham, vous avez été confronté à ce problème parfois dans les jardins du bambou qui envahit tout et qui mange toutes les autres plantes?
Alors, il y a les deux côtés. Silence, ça pousse à tourner à Anduze pour montrer combien c'était beau et intéressant. Et avec ça, tous les gens qui ont des petits jardins, qui veulent s'isoler de leurs voisins, du mur de béton, ils se disent, on va mettre un bambou, ça va aller vite, et ça va pousser, ça va être beau, c'est magique. Et puis après, ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Ouais. Parce que le bambou est pire que le lapin. Il fait des petits... non seulement il pousse en hauteur, mais il s'étale.
Alors, ça dépend des bambous.
La
parole est à la défense.
Il y a ce dont vous parlez, ce sont les bambous traçants.
Je l'ai vu, monsieur le juge.
Ce sont des bambous traçants qui existent, qui sont ceux qui poussent dans les zones tempérées. Et les bambous non traçants, qui sont les bambous tropicaux, évidemment, ne poussent pas vraiment en France. Et quant aux bambous traçants qu'on a en France, on sait les contenir aujourd'hui. On sait faire des tranchées, on sait les mettre dans des bacs si on ne veut pas être envahi, comme vous dites. Mais cette invasion, comme je vous le disais, permet de stocker beaucoup de carbone. Et pour revenir sur le stockage du carbone, ce qui est fascinant, là où ça touche à la grâce écologique en quelque sorte, c'est quand on le transforme, cette plante, en matériaux qui remplacent tous les matériaux polluants dont on a parlé.
Ouais. Alors, il y a cet aspect matériaux, aussi bien pour des grandes constructions, des maisons en architecture, ou aussi pour tout ce qui est dans la maison finalement.
Absolument.
Hein. Tout peut être construit en bambou.
Tout avoir en bambou dans la maison. Votre chaise, alors même le micro, en fait, pourrait presque être
support. On va en parler à la direction de France Inter,
tout
on va voir
si
l'idée est retenue. Ça peut se manger aussi, le bambou.
Et ça se mange, c'est une alimentation et une médecine. Les médecines chinoises, ayurvédiques, asiatiques de façon générale, utilisent le bambou depuis longtemps, notamment pour tout ce qui est rhumatisme et arthrose, puisque le bambou contient une quantité de silice absolument phénoménale. Le silice, c'est un collagène naturel, donc qui huile tout ça, et qui permet d'être un anti-âge, un anti-vieillissement fabuleux pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles. Ouais.
Et alors, au-delà de toutes ces considérations matérielles ou esthétiques, cosmétiques ou santé, il y a aussi la philosophie. Vous y voyez une plante philosophique.
C'est une très grande partie du livre, en effet, qui va de la philosophie asiatique, la philosophie chinoise qui a toujours célébré le bambou, alors à la fois presque d'une façon spirituelle, puisque je disais que ça fait partie de la civilisation asiatique, cette plante en fait partie. Mais la philosophie du vivant aussi aujourd'hui est extrêmement intéressante à explorer du côté du bambou, puisque de par toutes les portes d'entrée possibles que nous avons pour le bambou, ça devient une plante absolument idéale pour nous relier au vivant, que ce soit sous la forme de plantes ou de matériaux.
Pour en savoir plus et pour découvrir cette philosophie du bambou, il faudra vous lire Jeanne Pham Tran. Je rappelle le titre de votre livre, Révolution Bambou, aux éditions Équateur. Il paraîtra le 24 avril prochain. Un grand merci à vous, Hervé Brunon et Noël Bréham.
Merci,
et
Daniel.
Jeanne Pham Tran, d'être passé par cette terre au carré. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Anaëlle Verzo et sa chronique Le jour où.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Champagne.
on va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça.
Je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de queen. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disait de moi,
qui c'est celui-là, complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête sur qu'il plat. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars, elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça.
Ce n'est pas de ma faute à moi si les femmes mariées préfère sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissons. Mais je crois que ce qu'elles préfèrent, c'est mon petit ventre rond. Et leur mari disait de moi,
c'est celui-là. Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis champagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre.
Si vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau. Je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens disent de moi,
c'était Qui c'est celui-là de Pierre Vassiliou. Et merci à Thierry Dupin qui signe notre programmation musicale. Allez, comme chaque vendredi en fin d'émission, nous allons retrouver le témoignage d'une femme ou d'un homme qui nous raconte un moment qui a marqué sa vie. C'est Le jour où, proposé par Anaël Verzo.
Je m'appelle Luc Richard, j'ai 51 ans, je suis guide accompagnateur en montagne. Et je vais vous raconter le jour où j'ai traversé un glacier islandais en slip. C'était le 15 août 2012. Mon idée, c'était de traverser l'Islande à pied, seul, en autonomie, pendant 20 jours, de la côte est à la côte ouest. Il faut imaginer un paysage qui est complètement minéral, il n'y a pas du tout de végétation, on est loin de tout. Et le premier jour, j'ai traversé une rivière. J'avais des surbottes étanches, mais ça n'a pas suffi. J'ai eu de l'eau jusque à peu près à la taille et je me suis retrouvé trempé. J'ai accroché le pantalon au sac à dos et donc cette deuxième journée de marche, je l'ai faite en slip. Après tout, je suis seul, une personne qui me regarde, hein, donc c'est pas comme dans nos montagnes. Et j'ai trouvé ça assez confortable de marcher en slip. Donc le deuxième jour, le troisième jour et puis... Le matin du sixième jour, j'étais au pied d'un glacier islandais, le grand glacier Vatnajökull, qui est un très très grand glacier, fait plus de 3000 km². Et je me dis, voilà, aujourd'hui, c'est une grosse journée, il faut que je traverse ce glacier pour faire cette traversée d'Islande. Et je me suis même pas posé de questions, donc j'ai enfilé mon slip rouge, donc avec quand même des grosses chaussures de marche, et je commence à marcher. Mais au bout de 2-3 heures, il commence à pleuvoir. Il faisait 4 ou 5 degrés au-dessus de zéro. Et donc je me retrouve avec les jambes couvertes de pluie qui ruissellent. Évidemment, il commence à faire très très froid. Puis en plus, l'eau, quand elle ruisselle, elle rentre dans les chaussures. Donc elle va mouiller les chaussettes, elle remplit les chaussures, etc. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais sur ce glacier en slip? Alors que mon pantalon était rangé dans mon sac à dos, bien sec. Donc la pluie tombe et puis là, il y a un brouillard assez dense qui tombe. Donc dans un univers qui est complètement blanc, avec du brouillard partout, il n'y a absolument aucun repère. Donc je me perds. J'étais tout seul, perdu, sur un glacier, en slip. Quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, il y a du brouillard et il y a plusieurs dizaines de kilomètres de glacier. Et il faut que j'arrive à en sortir avant que la nuit tombe. Et donc j'ai avancé comme ça pendant plusieurs heures. Je commençais à avoir vraiment les jambes gelées et je commençais à parler à voix haute, je commençais à me parler à moi-même. Je me mettais à chanter. J'ai chanté Yellow Submarine pendant des heures et des heures en boucle pour me tenir compagnie, pour pas devenir fou sur mon glacier, dans le brouillard et en slip. Les minutes étaient comptées. Avant qu'il fasse nuit noire, j'ai fini par trouver un endroit où je voyais qu'il y avait un petit peu de terre qui montait sur le glacier. J'ai réussi à descendre du glacier et donc j'étais littéralement épuisé. Ça faisait presque 15 heures que je marchais, il était 22 heures. Et là, je me suis glissé dans mon sac de couchage, mais épuisé.
Luc, pour quelle raison est-ce que tu as choisi de garder ton slip et de ne pas remettre ton pantalon alors que tu l'avais sec dans ton sac? Et qu'est-ce que ce jour a changé pour toi?
Il y a toujours cette idée qu'on fait un voyage et qu'on fait un voyage exceptionnel et que soi-même on est exceptionnel et qu'on pense en fait au voyage des grands explorateurs. Mais sauf qu'on est au 21e siècle, hein. On est à l'ère de l'industrie du voyage. Donc le slip, c'est un peu un pied de nez à cette industrie du voyage, à ce voyage qui est devenu une marchandise. C'est une manière aussi de se tourner soi-même en ridicule, d'avoir un peu un regard ironique ou amusé sur mon propre exploit. Du coup, j'ai regardé le voyage avec un œil un petit peu différent. L'industrie du tourisme est quand même une catastrophe en termes d'impact sur la nature, sur l'environnement, en termes de pollution. Le temps des explorateurs est révolu. Hein. Aujourd'hui, c'est le temps du tourisme de masse.
Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard et Camille Crenier aux commandes de la Terre au Carré. Très bon week-end à toutes et à tous.